Hello et bienvenue sur Entreprendre dans la Santé, le podcast qui a pour but de t'inspirer et de t'en apprendre plus sur l'entrepreneuriat dans la santé à travers le parcours de celles et ceux qui ont sauté le pas. Chaque discussion te permettra de tirer des choses concrètes et applicables de leurs réussites et erreurs, leurs stratégies et insights. Je suis Jean-Baptiste Michel, passionné d'entrepreneuriat et étudiant en master en management de la santé et data intelligence, et je te souhaite un bon épisode. Dans cet épisode d'Entreprendre dans la santé, j'échange avec Morgane Soulier, fondatrice de Philit. L'entrepreneuse lyonnaise a décidé d'entreprendre après près de 15 années de souffrance alimentaire et d'errance thérapeutique. À l'origine de son écosystème lancé en 2016 et de l'appli Philit, disponible depuis 2019, se trouve donc son parcours difficile de patiente et sa volonté d'aider tous ceux qui ont perdu leur repère alimentaire à se réconcilier avec leur alimentation et à retrouver une dimension de plaisir. En partant d'une communauté initialement construite autour de son compte Instagram Philit, Morgane est parvenue à développer tout un écosystème touchant aujourd'hui 1 million de personnes par mois à travers un blog, un magazine, des livres et contenus audio comme vidéo afin d'accompagner et de compléter au mieux l'application Philit dans le soutien aux patients et professionnels de santé. L'appli a quant à elle été téléchargée plus de 100 000 fois en un an et permet aux patients de bénéficier d'un carnet alimentaire ludique mettant les émotions au cœur du dispositif et les connectant aux professionnels de santé via une interface dédiée. Dans cet épisode, Morgane nous explique comment construire une communauté de patients et professionnels de santé en partant de zéro, comment faire levier sur sa communauté pour créer du contenu au quotidien et comment prendre les bonnes décisions au moment de développer une application. Si le podcast vous plaît, je vous invite à laisser une évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, ça me ferait super plaisir et ça aiderait un maximum de personnes à découvrir mon travail pour la suite. Bonne écoute sur Entreprendre dans la Santé. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode d'Entreprendre dans la Santé. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Morgane Soulier, fondatrice de l'écosystème Philit. Bonjour Morgane, ça va ?
Bonjour, ça va, merci. Merci de me recevoir.
Ben, merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Ça fait longtemps qu'on doit échanger. Mais comme c'est je te vrai. Disais en préparation, voilà, y a beaucoup d'entrepreneurs que je veux, avec lesquels je veux discuter. Et généralement, ça peut me prendre quelques semaines, voire quelques mois avant de revenir vers ces derniers. Mais donc, je suis super curieux de revenir avec toi sur toute cette aventure Philit parce que je t'ai pas mal vu à la fois dans la presse, sur les réseaux sociaux, t'as créé beaucoup de contenu, tu fais un petit peu de bruit sur LinkedIn. Donc voilà, ça a attiré mon attention et je pense que je vais avoir pas mal de questions à te poser.
Eh ben c'est super. En tout cas, merci pour ton attention. Je suis assez fière de participer à ton podcast parce que je sais que tu interviews des gens qui sont très inspirants. J'ai notamment écouté l'interview de Pauline, de Aude et enfin de plein de personnes que tu as eu l'occasion d'interviewer. Donc merci infiniment de me donner la parole aussi.
Ben, avec plaisir. Alors, je vais te proposer, comme d'habitude, de te présenter, mais moi, je pars vraiment de la base, c'est-à-dire que tu me décrives un petit peu l'environnement dans lequel tu as grandi et qui tu étais avant de commencer à travailler pour qu'on comprenne par la suite quel type d'entrepreneur tu es.
Ouais, et puis en plus, pour aller encore plus loin dans ta question, je pense que c'est très important de comprendre d'où je viens pour comprendre pourquoi j'ai créé Philit et mon parcours de vie, parce qu'en fait, Philit est né d'un parcours de vie un peu atypique. J'ai 37 ans aujourd'hui, j'ai grandi dans une famille, tout ce qui est de plus chaleureuse. J'ai un petit frère, une grande sœur. J'ai fait des études en école de management à l'EM Lyon, là où tu es aujourd'hui, je crois. Et j'ai commencé ma vie professionnelle. J'ai rejoint le graduate programme du groupe Orange. Donc, j'ai bossé chez Orange à peu près 8 ans en tant que chef de projet, responsable marketing, responsable communication. J'ai notamment travaillé sur des sujets assez intéressants au sein de la division des contenus. Donc, j'ai aidé à structurer des offres de vidéos à la demande. C'était juste avant l'arrivée de Netflix. Donc, j'ai bossé à la stratégie de l'arrivée de Netflix sur le marché, enfin voilà, plein de choses assez passionnantes. Et j'ai été pionnière, on va dire, pour le groupe Orange, parce que j'ai fédéré la première communauté Facebook du groupe Orange. Donc ça, c'était, j'ai l'impression d'être vieille, mais c'était en 2009. Donc voilà, j'ai vraiment évolué dans cet écosystème média, nouvelles techno.
Marketing et communication aussi.
Ouais, exactement. Et puis à côté de ça, à côté de la vie professionnelle, il y a la vie perso, et j'ai malheureusement traversé ces premières années professionnelles, on va dire, avec une maladie qui a beaucoup impacté ma vie, qui est des troubles alimentaires et des troubles digestifs très résistants et puis très handicapants au final. Et c'est comme ça qu'en 2015, j'ai accepté de me faire hospitaliser. Et là, j'ai en hospitalisation, je m'ennuyais un petit peu pour tout vous dire. Et du coup, j'ai commencé à fédérer via les réseaux sociaux des communautés d'entraide, à partager mon expérience du soin, à partager mon expérience de l'hôpital, parce que j'ai eu la chance d'être hospitalisée dans un lieu qui était très bienveillant, ce qui n'a pas toujours été le cas, parce que bon, je suis allée un petit peu vite, mais en 2007, j'avais déjà été hospitalisée dans un lieu vraiment, vraiment, vraiment très compliqué, très rigoureux, très strict, dans des conditions très, très précaires. Et en 2015, bah, j'ai voulu partager cette expérience bien plus positive. Et,
je vais t'arrêter là parce que tu vas vite. Pour qu'on comprenne un peu... J'ai plusieurs questions à la fois sur voilà ta vie pro avant donc voilà cette partie de ta vie l'hospitalisation. Mm-hmm. Pour comprendre, toi t'avais jamais monté de projet entrepreneurial, tu t'avais jamais eu un side project de création de contenu ou de communauté, t'avais jamais fait ça.
À vrai dire, si. En fait, je pense que l'entrepreneuriat, je l'ai en tête depuis presque depuis toujours. Je m'étais jamais lancée pour plein de raisons différentes. Je pense qu'il y a toujours, avant de se lancer dans son premier projet, je pense qu'il y a pas mal de freins. Un, j'étais trop jeune, je manquais de maturité certainement, je manquais d'outils. C'était toujours bizarrement ou pas par rapport à ma condition personnelle, mais c'était toujours des choses qui étaient liées à l'alimentation. J'avais en tête des projets assez innovants dans la fluidité de faire ses courses dans des box innovantes. C'était avant l'arrivée des box alimentaires, des box de livraison de repas. Enfin, il y a eu pas mal de choses sur lesquelles effectivement j'ai eu des idées avant que les choses arrivent sur le marché. Et du coup, je m'étais toujours dit l'entrepreneuriat, c'est sûr qu'un jour j'irai, mais pour le moment, c'est pas le moment. Quand j'ai été hospitalisée, je t'ai parlé du partage que j'ai fait via les réseaux sociaux, mais j'ai aussi monté un cabinet de conseil en marketing et en communication digitale alors que j'étais hospitalisée, parce que ça me passait le temps et que c'était sympa. Donc vraiment, je pense que j'ai un esprit entrepreneur qui est bien ancré et depuis toujours, en fait.
Ok. Et donc, plutôt sur l'autre aspect, donc sur la partie hospitalisation, voilà, y a pas mal d'auditeurs qui nous écoutent qui n'ont sûrement pas à la fois soit de background santé ou alors de troubles alimentaires. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement, voilà, qu'est-ce que ça fait au quotidien et puis surtout en quoi ça consiste cette hospitalisation pour qu'on comprenne un peu mieux ce que tu as traversé.
Alors je sais pas si toi tu sais, bien sûr que toi tu sais, mais les auditeurs le savent peut-être pas. J'ai aussi un podcast et sur cette idée d'hospitalisation, c'est important que je le dise. Moi, j'ai connu des hospitalisations, comme je disais, très rigoureuses, mais c'est des choses qui sont en train d'évoluer. Et si je parle du podcast, c'est parce que j'ai interviewé la semaine dernière le professeur Vincent Daudin qui vient expliquer en quoi aujourd'hui on modernise les parcours de soins des personnes qui souffrent de troubles alimentaires. Si j'en parle, c'est parce que moi, mes deux hospitalisations ont duré plus de 6 mois à temps complet. Et qu'aujourd'hui, c'est plus le cas parce que on essaye de faire en sorte que la personne hospitalisée ne soit pas coupée de sa vie professionnelle, ne soit pas coupée de sa vie sociale. Quoi qu'il en soit, pour en revenir à mon histoire, donc j'ai eu une hospitalisation en 2007 et une hospitalisation en 2015. Et quand je dis hospitalisation à temps complet, c'est des longs mois coupés de la vie professionnelle, coupés de la vie sociale, coupés de la vie familiale, où finalement, on reste hospitalisé à temps plein. Et c'est pour ça que je vous disais, je m'ennuie un petit peu et j'ai créé des communautés d'entraide, j'ai créé une agence de communication, de conseil en communication digitale. Et donc, en quoi consistent les journées? Les journées, surtout pour troubles alimentaires, sont vraiment... étaient, parce que le professeur Daudin nous explique bien comment ça évolue, mais était vraiment centré sur les repas, l'alimentation, le repos, les rendez-vous avec les médecins, avec les diététiciens, avec les psychologues, avec les psychomotriciens. Et en fait, c'est une vie qui est vraiment focalisée sur soi, sur la reprise de poids, sur le rapport à l'alimentation. Et qui, à mon sens, en tout cas me concernant, j'ai l'impression que la première hospitalisation en 2007, j'ai souvent l'habitude de dire, je buvais la tasse et au lieu de me sortir la tête de l'eau, on m'a noyée en fait. Parce qu'à mon sens, être comme ça 6 mois enfermé avec des personnes qui souffrent de troubles alimentaires et être uniquement focalisé sur un rythme qui est, enfin, les journées sont rythmées autour du petit déjeuner, du déjeuner, du goûter, du dîner. En fait, bah, ça accentue à mon sens la focalisation et l'obsession sur les repas. Donc moi, j'ai l'impression que ma première hospitalisation a plus aggravé mon rapport à l'alimentation que l'a amélioré. Et voilà, pour répondre à ta question sur l'hospitalisation.
Donc sur l'aspect communauté, et c'est là que ça a commencé, qu'est-ce que tu as fait au début et pourquoi tu l'as fait, outre le fait que voilà, tu avais du temps et tu t'ennuyais?
Oui, alors en fait, ça a été l'élément déclencheur a au final été, je pense, ma première hospitalisation en 2007, où moi j'étais un petit peu, je savais pas ce qu'était un trouble alimentaire. C'est vrai que j'avais perdu beaucoup de poids. Je revenais de Singapour, j'avais perdu beaucoup de poids, je manquais d'appétit, j'avais des maux de ventre très très forts, et j'ai été hospitalisée tout de suite. On m'a propulsée en fait dans ces espèces de troubles alimentaires. On m'a parlé de calories, j'avais jamais entendu parler de calories. Et le médecin psychiatre de la clinique m'a tout de suite dit, tu devrais aller. Alors à l'époque, Instagram n'existait pas en 2007, mais Doctissimo existait. Il m'a dit, ah, tu devrais aller voir sur Doctissimo les forums d'entraide, on parle d'anorexie, machin. Et en fait, c'était complètement délétère et c'était presque meurtrier, parce que là, j'ai mis le doigt dans un engrenage qui est de vivre avec mes petits copains, mes petites copines qui souffrent de troubles alimentaires et qui écrivent sur les forums, voilà, j'ai mangé 3 petits pois et c'est super. Et en fait, quand j'ai été hospitalisée du coup dans cette deuxième clinique, j'ai voulu partager ce que sont de vrais repas de reprise de poids pour lorsqu'on souffre de troubles alimentaires. C'est comme ça qu'est née la communauté. J'avais vraiment envie de partager les choses de façon positive et surtout de façon médicale, plutôt que toutes ces personnes qui sont laissées à l'abandon et qui essayent de s'entraider sur les réseaux sociaux parce qu'elles n'ont pas la chance d'être hospitalisées, parce qu'elles n'ont pas la chance d'avoir rencontré le bon médecin. J'avais envie de partager les choses de façon positive et de pouvoir y apporter, c'est quoi les plateaux repas qu'on m'apporte et voilà, quelles sont les recommandations de ma diététicienne. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'a commencé, c'était avant Philite, hein, j'avais pas du tout Philite en tête à l'époque. C'est comme ça qu'a commencé la constitution, on va dire, le début, la création de la communauté.
Tu faisais ça via quel canal ?
Instagram.
Instagram, ok.
Via Instagram. Et puis quand je suis sortie de l'hospitalisation, vu que j'avais cette communauté que je souhaitais continuer à entretenir, que j'étais... encore un peu fragile. Alors bon, moi je te parle de troubles alimentaires, mais j'ai aussi une maladie digestive qui est venue se mettre là-dessus. J'ai eu une grosse intervention chirurgicale, une grosse opération de l'estomac. Et en fait, je pense que si mes médecins avaient eu une meilleure connaissance de ce que je vivais au quotidien, de mes maux de ventre, je pense qu'on aurait pu s'épargner beaucoup beaucoup d'années de soins très fastidieux, qu'on aurait pu aller à l'essentiel de cette opération notamment. Et du coup, quand je suis sortie de l'hospitalisation, j'ai continué à prendre en photo mes repas, j'ai continué à les partager avec la communauté, mais j'ai surtout commencé à les partager avec mes médecins en me disant il faut qu'ils puissent avoir une visibilité de ce que je vis au quotidien. Et ça m'a beaucoup aidée, c'est comme ça qu'on a mis le doigt sur la maladie digestive, et c'est comme ça que je me suis dit mais en fait le numérique doit aider à ce que le parcours de soins très chaotique de 10 années un peu compliqué que j'ai eu, on a mis 10 ans pour découvrir la maladie digestive, en fait, ça pourrait s'accélérer via le numérique, via le partage d'informations plus qualifiées entre les professionnels de santé et leurs patients. Et donc, c'est comme ça qu'est née l'idée de l'application Philite, en fait.
Ok, très bien. Donc, tu avais déjà en fait en tête ces deux aspects, à la fois le côté patient, le côté professionnel de santé. Oui. Mais toi, ton but, c'était, tu t'es dit, ok, c'est un concept entrepreneurial, c'est un projet de société, d'association, ou est-ce que tu t'es dit, ça peut rester sous forme de blog? Enfin, c'était quoi vraiment ce que tu avais en tête à l'époque?
Alors à l'époque, en fait, j'avais plein de choses en tête, comme souvent, et ça a vachement évolué. J'avais plusieurs aspects, comme tu le dis à juste titre. Il y a le côté patient, il y a le côté professionnel de santé. Je voyais bien que la communauté qui grandissait sur les réseaux sociaux, elle avait besoin de partage, elle avait besoin d'entraide, elle avait besoin d'informations pédagogiques pour mieux comprendre sa maladie. Il y avait de l'autre côté, cette idée de rapprocher le patient et son professionnel de santé, ses professionnels de santé, parce que quand on souffre de ces maladies-là, on a besoin d'une armée de médecins, que ce soit un médecin généraliste, un endocrinologue, un psychiatre, un psychologue, un diététicien, un nutritionniste. Et tous ces médecins, en général, quand on est suivi hors hospitalisation, ils ne se parlent pas, ils ne se connaissent pas, les protocoles de soins ne sont pas partagés. Et donc, si tu veux, il y avait toutes ces problématiques-là. Il y avait le patient entre deux consultations qui est livré à lui-même et qui a besoin d'informations qualifiées pour comprendre sa maladie et pour pouvoir avancer. Il y a le patient avec son professionnel de santé qui a besoin d'un meilleur partage de ce qu'il vit au quotidien avec son professionnel de santé. Et donc là, je me suis dit, mais Philite, c'est tout un écosystème qu'il faut bâtir, c'est tout un écosystème qu'il faut créer. Et ça va bien au-delà de uniquement une communauté qui partage sur Instagram, ou de j'envoie par email des photos de ce que je mange à mon médecin. Ouais, je vois.
Ce constat que tu nous fais sur le besoin, j'imagine que là, c'est facile de le faire a posteriori, parce que voilà, ça fait un moment quand même que tu es lancé. Mais à l'époque, et je pense que c'est intéressant pour pas mal d'entrepreneurs en santé ou de futurs entrepreneurs en santé qui ont parfois un besoin en tant que patient, comment tu as fait pour te renseigner et comprendre comment cet écosystème fonctionnait, toi, alors que tu étais, on va dire, un patient parmi tant d'autres? Est-ce que tu as commencé à faire des sortes d'interviews avec d'autres patients, avec des professionnels de santé, et à réfléchir sur le design de la solution?
Oui, alors justement, à partir de... Donc ça, c'était en 2017 ou 2018. Très vite est venue l'idée, donc à la fois, comme je disais, du blog, de témoignages, de partage d'expérience, mais aussi finalement de l'application. Et comme tu le dis à juste titre, moi je suis une patiente parmi tant d'autres. Je bosse en marketing, en communication, je sais pas coder. Et donc là, en 2018, j'ai la conviction qu'il faut créer une application à but thérapeutique. Et effectivement, c'est le champ des possibles qui s'ouvre devant moi, mais c'est aussi une montagne de défis. Donc là, qu'est-ce qui se passe? J'ai cette communauté déjà, effectivement, qui existe sur les réseaux sociaux. Le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai fait très basiquement un Typeform. Il faut savoir que l'application, elle permet aux utilisateurs d'enregistrer au quotidien des données qui concernent leur prise alimentaire. J'ai mangé du poulet, du riz et des brocolis, de contextualiser cette prise alimentaire, où j'étais, avec qui j'étais, et l'impact de cette prise alimentaire sur mes ressentis corporels, sur mes douleurs et sur mes émotions. Donc très basiquement, je me suis dit, je vais créer une espèce de MVP, en fait, par Typeform, avec un espèce de petit questionnaire que je vais envoyer à la communauté pour voir si c'est quelque chose qui semble intéressant. Et donc là, à peine 48 heures, j'ai récolté plus de 1000 et quelques repas. Donc je me suis dit, oui, donc effectivement, c'est quelque chose qui est fluide, qui est ergonomique et qui plaît. Donc à partir de ce moment-là, il fallait créer une application. Il fallait que je crée cette application. Donc là, j'ai fait plusieurs choses. Première chose, j'ai fait une liste d'applications dans le domaine de la santé qui me semblaient intéressantes, qui me semblaient avoir des fonctionnalités duplicables pour Philite. J'ai contacté les fondateurs de ces applications-là pour leur demander des conseils. Voilà, quand vous avez voulu vous lancer, quelles ont été les démarches et quels conseils, quel partage d'expérience vous pourriez avoir pour m'aider finalement à me lancer. Alors, je pensais pas forcément que les gens allaient me répondre. Ça c'est ma personnalité d'essayer d'ouvrir des portes et de me dire si on me répond tant mieux, si on me répond pas c'est pas très grave. Et en fait, au final, j'ai découvert une énorme communauté d'entraide et beaucoup d'entrepreneurs qui prenaient le temps de me parler, que ce soit une demi-heure, que ce soit une heure, que ce soit par téléphone, que ce soit dans un café, que ce soit au resto, et qui ont pris le temps comme ça de partager leur expérience et de me donner leurs conseils. J'ai découvert une vraie communauté d'entraide d'entrepreneurs et j'ai été vraiment très agréablement surprise. Et ils me disaient, mais en fait, des gens ont pris le temps pour moi quand je me suis lancée, donc je ne fais que renvoyer l'ascenseur. Donc ça, c'est quelque chose de très positif pour les gens qui nous écoutent et qui souhaiteraient se lancer dans un projet entrepreneurial. J'ai vraiment découvert une grande communauté d'entrepreneurs. Ça a été magique, en fait. Ça a été vraiment hyper inspirant. Et donc là, bah, dans les conseils que j'ai reçus, effectivement, il fallait que je sois très vigilante sur la protection des données de santé. Il y a eu tout un, voilà, toutes les étapes finalement de création d'un projet, hein, les étapes juridiques, la constitution de la société, la mise en relation avec d'autres, notamment avec des incubateurs dans le domaine de la santé. Donc j'ai constitué un dossier, j'ai été incubée chez TechCare.
Ouais. Avant qu'on parle un petit peu de voilà de la phase de développement de tout ça, l'idée de base, donc voilà, au-delà de l'application, quel était le business model derrière tout ça, parce que bon, pour être incubé, pour aller chercher des financements, etc., il faut avoir un business model. Selon toi, je sais qu'aujourd'hui voilà, c'est les professionnels de santé qui payent pour accéder. Est-ce que c'était ce que tu avais en tête dès le début? Ou est-ce que tu avais réfléchi à d'autres modèles via, je sais pas, des mutuelles, des assurances, ou via des partenariats de développement, d'autres types de fonctionnement?
Bah, au départ, on va y venir effectivement sur le modèle économique. Non, au départ, c'était plutôt flou. J'ai très vite évincé le modèle économique d'une application payante. Parce qu'à mon sens, un des gros freins pour se soigner lorsqu'on souffre de troubles alimentaires, bon, il y a la partie déjà en France, niveau de santé, bah, vu qu'on est pris en charge, souvent on bénéficie d'un ce qu'on appelle une affection longue durée quand on souffre de troubles alimentaires, donc tout est pris en charge à 100%. Il y a beaucoup de patients qui souffrent de troubles alimentaires. Malheureusement, c'est des maladies où on trouve beaucoup d'excuses pour ne pas se soigner. Et donc, si on rajoute une contrainte financière, ma conviction était que je réussirais pas le pari de mieux accompagner les personnes qui souffrent de troubles alimentaires en leur apportant des outils qu'ils utiliseraient pas si c'était payant. Donc, j'ai très rapidement évincé cette option-là. Très vite, du coup, j'ai pensé aux professionnels de santé et aux médecins qui pourraient souscrire à un abonnement mensuel pour pouvoir suivre leurs patients. Et ce qui m'a inspirée, c'est une application un petit peu similaire aux États-Unis qui a été développée par une chercheuse de Stanford, et c'est son modèle économique, en fait. Donc très vite, en fait, je suis allée vers ce modèle économique-là. Sachant qu'on va certainement en parler, mais après, la galaxie Philite, elle a énormément grossi avec d'autres projets qui sont venus s'ajouter à ça. Et donc, il y a plusieurs modèles économiques dans Philite.
Ouais. En fait. On va en parler après, notamment sur la création de contenu. Voilà, je sais que tu as une boutique aussi sur le site. Ok, intéressant. Et c'est intéressant de voir que bah, tu es parti pour les médecins, alors que moi, dans les derniers épisodes, voilà, les entrepreneurs me disent que voilà, c'est le plus dur, c'est de faire payer les médecins. Justement, la cible, donc on a les patients qui sont atteints de troubles alimentaires. Et du côté des professionnels de santé, qui sont-ils et comment tu les as identifiés et comment tu les as impliqués au début de Philite?
Oui. Alors, j'ai plusieurs réponses en fait à ta question. On va tout d'abord sur la cible. La cible initiale, c'était toutes les personnes qui souffrent de troubles alimentaires ou de troubles digestifs, parce qu'effectivement, c'est intéressant quand on a des allergies alimentaires, des maladies de Crohn, de pouvoir identifier quels sont les aliments qui génèrent les maux de ventre, qui génèrent les écœurements, qui génèrent les vomissements. Donc, c'était vraiment cette idée. Et je rappelle, je l'ai pas dit, mais c'est important, Philite n'est pas un carnet alimentaire au sens où on va te dire t'as mangé 433 calories et tu manques de protéines. C'est pas du tout l'idée. Il y a pas de chiffres, il y a pas de poids, il y a pas de calories. C'est vraiment centré sur les ressentis, sur l'impact de l'alimentation, sur les douleurs. Donc vraiment, au départ, moi, mon spectre, c'était troubles alimentaires et troubles digestifs, mais depuis que Philite commence à rayonner un petit peu auprès des professionnels de santé, je suis beaucoup contactée par des cancérologues, par des oncologues, par des gériatres, parce qu'en fait la dénutrition, notamment quand on souffre de cancer notamment, on sait que malheureusement la dénutrition est un facteur aggravant de la pathologie et qu'il y a plus de risques de mourir de dénutrition que de mourir de cancer quand on souffre de ces maladies-là. Donc tout ça pour dire qu'effectivement en fait Philite s'adresse à toute pathologie dont l'alimentation a un impact, donc pratiquement toutes. Donc ça c'était la première réponse à ta à ta question. La deuxième question, c'est les professionnels de santé du coup qui sont impliqués. Évidemment, tous ceux qui ont un lien avec la nutrition, donc les nutritionnistes, les diététiciens. J'ai parlé des cancérologues, les gastro-entérologues, les médecins généralistes. Finalement, pareil, tous les médecins qui sont potentiellement au contact de patients dont la maladie a un impact sur l'alimentation.
Et ce que je trouve intéressant, c'est que toi, tu es toute seule depuis le début du projet. Et quand tu t'es dit, OK, je vais vendre aux médecins, c'est les médecins qui font partie intégrante du business model. Généralement, les boîtes qui vendent directement aux médecins, elles ont besoin d'une force de vente assez colossale. Comment tu as anticipé ça, ou comment tu t'es dit ça va fonctionner via un effet de communauté ou autre? Quelle était ta réflexion derrière ça?
Alors, au tout départ, effectivement, en fait, il y a un cercle vertueux qui se crée autour de Filit, c'est-à-dire que un patient qui télécharge l'application a la possibilité, via une fonctionnalité qui s'appelle Mon suivi médical, d'inviter ses professionnels de santé à se connecter à son application, et inversement, un médecin qui utilise l'interface médicale peut inviter son patient. Donc, il y a une espèce de cercle vertueux qui s'opère, qui fait que finalement, la communauté d'utilisateurs peut grandir, d'utilisateurs à la fois de l'application et à la fois des professionnels de santé. Après, au lancement aussi, je pense que Philippe a bénéficié d'une notoriété qui fait que la communauté a continué de grandir, que je me suis entourée de beaucoup de professionnels de santé spécialisés dans les troubles alimentaires, parce que je les ai contactés pratiquement un à un pour comprendre leurs besoins. Et pour répondre à ta question sur l'armée de business développeurs dont il y aurait besoin, j'en suis à cette étape-là, justement, qu'il va falloir que je recrute pour m'aider maintenant à aller au-delà et aller plus loin et à m'aider dans la croissance de Filit, parce que j'ai participé à beaucoup de programmes d'accélération et d'accompagnement, notamment via l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, notamment via un programme qui s'appelle le Nutrition Lab, en collaboration avec Elior Santé et avec les établissements du groupe Ramsay. Donc ça me donne une visibilité, ça me permet de contacter des nouveaux professionnels de santé et de pouvoir rentrer petit à petit au sein d'établissements de santé. Mais c'est pas suffisant. Il y a 12 000 diététiciens en France, il y a 10 millions de personnes qui souffriraient de troubles alimentaires. Il y a un besoin énorme, et donc pour répondre à ta question, et s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont intéressées par le projet, je passe un petit message, mais je vais devoir recruter effectivement des business developers.
Justement, pour parler de l'incubation, de l'accélération, etc., comment tu t'es fait financer au début et comment tu as couvert le coût de développement d'une application? Ouais. On sait que ça peut être à la fois un gouffre où on peut, si on se trompe et qu'on fait des erreurs, ça peut coûter très cher de développer une application. Surtout quand on débute, ça peut arriver après, une fois qu'on a déjà quelque chose qui tourne, une fois qu'on a bien défini le besoin, parce que ça coûte moins cher en fait. Toi, comment t'as financé ça?
Alors, effectivement, une application, ça coûte assez cher, et surtout si on passe par une agence qui est pas sérieuse. Alors moi, au tout début, j'ai fait un peu de financement sur fonds propres. J'ai capitalisé sur la communauté pour faire une campagne de financement participatif. J'ai eu une petite subvention de la fondation Mérieux. Et vu que j'ai été incubée chez TechCare, j'ai bénéficié d'une subvention de la BPI également. Donc ça m'a aidé à avoir les premiers la première trésor pour financer l'application, en tout cas le développement de la première version de l'application. Et ensuite, l'année dernière, j'ai fait une première levée de fonds qui m'a aidé à accélérer un petit peu et à continuer à faire améliorer l'application. J'ai changé d'agence parce que je rappelle, et en tout cas je veux à mettre un petit peu de vigilance, que effectivement il faut être sûr que l'agence soit vraiment ait envie de d'être transparente sur les besoins et sur le temps. Alors, au départ, j'avais pris une agence qui était très connue dans le domaine de la santé. Je ne citerai pas parce que ça a pas de, mon objectif n'est pas de d'être désagréable ou de dénoncer qui que ce soit, mais une agence qui est très connue, qui a pignon sur rue dans le domaine de la santé, qui travaille avec des grands groupes, avec des grands noms. Et comme j'étais inconnue à l'époque et que j'étais toute petite, je pense que mon dossier n'était pas une prio. Au départ, on avait un délai de 3 mois de développement. Au final, on a mis plus d'un an. Et surtout, ils m'ont livré une version extrêmement buggés. Ils sont tout de suite dédouanés et je les ai plus vus. Donc j'ai pu récupérer évidemment, heureusement, tous mes codes. J'ai dû faire appel à une nouvelle équipe qui pour le coup est absolument exceptionnelle et géniale et très très réactive et a pu améliorer toutes les failles qu'il y avait dans l'application. Mais c'est les écueils de l'entrepreneur, c'est pas très grave en fait, c'est des anecdotes.
Ça peut faire perdre du temps, de l'argent, donc c'est important le de le nommer. Tu veux d'ailleurs nommer l'agence qui réussit bien en ce moment, ça, sauf si t'as peur que voilà, il y a d'autres projets qui passent avant le tien, dans ce cas-là.
Pas du tout, non, j'ai aucun problème. C'est une agence qui s'appelle Dermalcorp qui m'a été recommandée par une autre start-up qui était incubée avec moi chez TechCare. Et donc, en tout cas, si des personnes veulent être en contact avec l'équipe, il n'y a aucun problème parce que c'est des gens...
Non, il faut le dire quand il y a du bon travail aussi.
Je suis complètement d'accord.
Ok, intéressant. Et donc, une fois que voilà, vous avez développé cette application, j'imagine qu'en parallèle, toi, tu travaillais pour voilà, animer la communauté, préparer le contenu. Aujourd'hui, Philite, c'est beaucoup de choses. C'est un blog, c'est une application, c'est un podcast, c'est des webconférences, t'as un magazine, tu fais des enquêtes, des études de marché, c'est énorme. Et tu me disais que t'es toute seule. Comment tu fais pour gérer tout ça? Est-ce que tu externalises via des freelances? Est-ce que tu engages la communauté pour produire du contenu? Et dans ce cas-là, ça te permet de déléguer. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'organises?
Ouais, alors c'est vrai que vu comme ça, je suis toute seule à 100%. Moi, je dis souvent que Philite, c'est un vrai... Alors, c'est plus un projet, je sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, mais c'est quelque chose de très participatif et de très collaboratif. J'ai eu la chance d'avoir la communauté qui s'est énormément impliquée. C'est eux qui ont choisi les logos, c'est la communauté qui a choisi le logo, le nom. Dans l'application, est-ce que le bouton, on le met en haut à gauche ou en bas à droite? Est-ce qu'il est jaune ou est-ce qu'il est rouge? Donc ça a été une aide extrêmement, extrêmement précieuse. Sur le blog, il y a beaucoup de témoignages, de partage d'expériences. Donc là, c'est vrai que très régulièrement, je reçois des témoignages de façon assez fluide et c'est voilà des gens qui m'écrivent et qui me partagent leurs témoignages. Donc ça, c'est quelque chose qui permet de nourrir le blog assez facilement. Sur le podcast, c'est moi qui le fais, mais ça c'est quelque chose que je trouve extrêmement passionnant. Je pense comme toi, en fait, je trouve ça extrêmement inspirant. Donc le podcast, je fais appel à des sociologues, à des psychologues, à des psychiatres, à des grands chefs cuisiniers qui viennent raconter un petit peu comment l'alimentation et comment la nourriture a façonné leur vie et a changé leur vie. Donc le podcast, effectivement, c'est quelque chose que je fais toute seule. Et puis donc toute la partie technique, je la sous-traite effectivement donc à l'agence et à un CTO en freelance en qui j'ai extrêmement confiance également. Et puis sur toute la partie développement de contenu, j'ai quelques mois travaillé avec une agence qui m'a beaucoup aidée dans la ligne éditoriale, dans la création de toute l'image de Philite finalement qui a développé pas mal de contenu pour moi. Et puis à un moment, j'ai réalisé que je pouvais réinternaliser ça parce que j'étais peut-être la mieux placée pour savoir ce dont avait besoin la communauté, comment m'adresser à eux. Et là, pareil, en fait, je parlais de recrutement en business developer pour la partie médicale. Et là, comme tu l'as dit à juste titre, il y a aussi un autre aspect de Philite qui est le partenariat avec des avec des marques, notamment pour la création de recettes adaptées à la communauté. Et là, typiquement, bah, effectivement, je vais recruter, je pense, quelqu'un pour m'aider dans cette partie annonceur et dans cette partie partenariat.
Ok, intéressant. Et donc, ça va constituer une autre source de revenus qui est déjà aujourd'hui présente. Est-ce que tu peux nous dire un peu en termes de ratio, est-ce que voilà, pour l'instant, c'est moitié-moitié création de contenu, partenariat et licence sur l'application ou est-ce que...
Pour le moment, ce qui est le plus important, c'est la partie partenariat.
D'accord.
C'est la partie partenariat qui est la plus prégnante, avec ensuite la partie Philite Med, Philite Med, c'est l'interface pour les professionnels de santé, qui grossit également. Et puis à venir, en fait, Philite, c'est trois structures, c'est Philite pour le particulier, pour l'individu, pour le patient, avec tous les contenus pédagogiques. Il y a Philite Med pour les professionnels de santé, et puis il y a une autre structure qui s'appelle PhilHealth qui se dévoue à ce que tu disais tout à l'heure. Ça va être des études cliniques, ça va être des études, une collaboration avec l'INSERM qui est en cours, enfin qui ouais, arrive, une
pour,
collaboration avec voilà,
faire levier sur la communauté pour avoir des métriques.
Ouais. Et donc c'est ça qui est amené aussi à grossir dans les prochains mois.
C'est intéressant d'avoir ce business model très très varié, mais donc ça repose beaucoup sur la communauté, donc j'imagine qu'il faut investir énormément dans l'animation de cette communauté. J'imagine que ça représente beaucoup de temps pour toi. Est-ce que tu as des hacks ou des astuces à nous partager sur l'animation d'une communauté, parce que c'est un peu un truc dont beaucoup d'entrepreneurs rêvent d'avoir. Pour beaucoup, ce serait pertinent d'avoir une communauté. Il y a plein d'industries dans lesquelles ça peut se faire, et généralement, c'est une énorme source de revenus et de data sur son customer profile, sur ses auditeurs, etc.
Alors, je ne sais pas si je suis très, très bien placée pour en parler. Aujourd'hui, effectivement, il y a 55 000 personnes sur Instagram. On a touché 5 millions de personnes en un an. Si je dis que je ne suis pas très bien placée pour en parler, c'est qu'en fait, le Philite se démarque des autres communautés ou des autres projets parce que tout est parti de la communauté. Plutôt que l'inverse, de se dire bah, j'ai un projet entrepreneurial et il faut que je crée une communauté pour le développer. Moi, ça a été l'inverse. La communauté commençait à être présente et c'est de cette communauté-là qu'est née l'idée de Philite. Après, sur comment animer une communauté, moi, je prône. J'ai jamais triché, en fait. J'ai jamais triché. Je prône l'authenticité. Je prône le... Il y a un hashtag sur Instagram qui fait fureur qui s'appelle « On veut du vrai ». Et c'est tout à fait ça. C'est que je parle, c'est Morgane qui parle à la communauté et c'est moi qui voilà, c'est de l'authenticité, en fait. Okay. Il y a d'autres projets comme ça qui.
Ça paraît simple comme tu le dis.
Je sais.
Tu vois l'authenticité, mais arriver à 50 000, bon, et par rapport à d'autres influenceurs, c'est pas énorme, mais.
Typiquement, je regarde, je suis régulièrement ce que fait l'entreprise Respire, qui a une grosse communauté sur Instagram, et c'est la fondatrice de Respire qui prend la parole régulièrement, qui fait des stories, qui monte sa tête, qui raconte son quotidien, et je pense que c'est ça qui fonctionne. C'est parce que c'est authentique et c'est pas un authentique travaillé, en fait. C'est vraiment, enfin, après, pour Respire, j'en sais rien, mais en tout cas, ce qui concerne Philite, c'est que c'est pas calculé et je pense que la communauté le ressent. Je reçois très régulièrement des emails ou des messages par Instagram. Salut Morgane, comment tu vas? Je te remercie. Moi, je connais pas la personne, mais ça me fait énormément plaisir de voir que bah, finalement, c'est incarné, mais c'est incarné vrai, que les gens savent que c'est une vraie personne qui est derrière Philite.
D'accord. Et côté professionnel de santé, est-ce que diététicien, nutritionniste, etc., est-ce qu'ils font partie de la communauté ou est-ce que tu as développé une sorte de canal uniquement pour eux ?
Non, alors ils font à 100% partie de la communauté. C'est assez intéressant de voir sur Instagram qu'il y a beaucoup de diététiciens, de professionnels de santé qui me suivent, qui relaient les infographies que je publie régulièrement, qui relaient les idées reçues que je publie régulièrement, et à savoir que les diététiciens, les diététiciennes, les psychiatres, les psychologues, les médecins généralistes, les endocrinologues, ils participent à la création du contenu, puisque c'est eux que j'interview via podcast, et du coup ils le rediffusent. Donc c'est vraiment un écosystème que j'ai envie d'appeler holistique, en fait. C'est que Et c'est ce que je voulais, c'était cette idée de, dans le soin, il y a toute une typologie d'acteurs qui est complètement différente, qui est le patient, qui est ses parents, qui est ses proches, son conjoint, il y a les médecins, il y a tout le système de santé, et l'ambition de Philippe, et je pense qu'on y arrive bien, c'est de rassembler tout le monde et de créer quelque chose en commun.
Ouais. Non, c'est super, super intéressant, très inspirant pour moi aussi de voir ce que tu es parvenu à faire en partant d'une communauté, juste d'un besoin de partager en tant que patiente, et je trouve ça vraiment, vraiment magnifique.
Ben, merci beaucoup.
On arrive à la fin, doucement, de notre discussion.
Merci infiniment. Et puis, tu vois, vraiment, merci beaucoup. Même d'en parler, ça permet de remettre les choses dans leur contexte. Et c'est ouais. Vraiment merci.
J'ai encore moi quelques questions sur le futur, développement de Philite. Donc tu parlais de t'ancrer encore plus dans l'écosystème médical.
Oui.
Qu'est-ce que tu vois comme développement à la fois de l'offre, est-ce que tu vois de nouvelles améliorations de l'application?
Bien sûr.
Ou de nouveaux formats sur la partie média, contenu? Est-ce que tu peux nous dévoiler des petits insights?
Bien sûr. Alors bon, déjà, je pense que dans tout projet de nouvelles techno ou tout projet applicatif, j'ai une roadmap technique, évidemment. Je recueille très régulièrement les besoins fonctionnels à la fois des utilisateurs de l'application et à la fois de ceux de l'interface pour les professionnels de santé. Donc j'ai une petite roadmap avec des améliorations à apporter qui se feront au fil de l'eau. Ça c'est le premier élément. Évidemment, il faut jamais rester statique, je pense. Il faut toujours écouter les besoins de ses utilisateurs. En rupture ou en tout cas en nouvelle fonctionnalité, en nouveau produit. Alors déjà, il y a 2 ans, j'avais fait un cycle de conférences. Une fois par mois, je faisais intervenir un expert médical, que ce soit un psychiatre, un diététicien ou une nutritionniste, un rhumatologue, une gynéco. Ça, c'est des choses que j'avais fait il y a 2 ans que je vais refaire, et de façon beaucoup plus soutenue, parce que c'est quelque chose qui avait beaucoup plu. Donc ça, c'est quelque chose que je veux absolument refaire. Ça, c'est un premier point. Ensuite, dans l'idéal et dans mes ambitions pour Philite, l'internationalisation qui me semble essentielle. Les problématiques alimentaires sont universelles, donc évidemment il faut que ça s'internationalise, sachant que l'application existe déjà en anglais. J'ai en tête de la recommandation personnalisée, j'ai en tête des outils de télémédecine pluridisciplinaire. Donc tout ça, effectivement, j'ai beaucoup d'idées pour l'avenir de Philite. Si on arrive à une fois de plus à accélérer la croissance, d'un point de vue très business, j'ai envie de faire une levée de fonds d'ici la fin de l'année pour me permettre justement de recruter et une fois de plus de continuer à croître le mieux possible.
D'accord, ok. Et en termes d'objectifs, donc de professionnels de santé, tu t'as pas vraiment dit combien il y avait de professionnels de santé aujourd'hui payants sur la plateforme, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de cette évolution, de ce que tu vois, si c'est un segment que tu envisages de faire croître?
Oui, bien sûr, c'est un segment que j'envisage de faire croître. Aujourd'hui, il y a à peu près 300 professionnels de santé sur la plateforme. Mon ambition, comme je disais tout à l'heure, il y a 12 000 diététiciens en France, il y a tout autant de psychiatres, tout autant de gastro-entérologues. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse adresser évidemment pas l'intégralité de ces professionnels-là, ce serait utopiste de penser ça, mais aussi de pouvoir intégrer des cliniques, des centres de soins, des partenariats avec des centres hospitaliers, donc de monter à plusieurs milliers d'utilisateurs. Évidemment que c'est accessible et il faut y arriver.
Et pour y parvenir, donc là j'ai vu qu'aujourd'hui il y avait une seule licence pour les professionnels de santé sur Philmed. si je ne me trompe pas.
Philippe Med.
Philippe Med, pardon. est-ce que tu vois de nouvelles offres pour eux? Est-ce que tu t'envisages de segmenter? Je sais qu'aujourd'hui, il y a une offre gratuite de test pour 14 jours. Ouais. Mais est-ce que tu comptes développer la partie commerciale là-dessus?
Pour le moment, en fait, alors il y a effectivement un test de 14 jours. Ensuite, il y a la possibilité de souscrire à un abonnement mensuel ou annuel. Et il y a aussi des offres groupées, c'est-à-dire que si un professionnel de santé fait partie d'un groupe de médecins, d'un groupe de clinique, d'une association, d'une fédération, d'une certaine spécialité, là évidemment on peut envisager, imaginer une offre groupée pour un groupe de professionnels qui prendraient une licence en commun. Et après j'ai beaucoup d'idées aussi, notamment des formations sur le suivi de personnes qui souffrent de troubles alimentaires, des cycles de conférences aussi dédiés aux professionnels de santé. Donc tout ça doit se construire, mais effectivement ça reste dans mon esprit.
Ok, intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire, notamment sur les différents leviers que tu as pu déjà tester. Mm-hmm. De ce que je vois à la fin de cette conversation, c'est que là, tu as un peu tout testé. Maintenant, une fois que tu as fait tes preuves de concept, tu vas pouvoir aller creuser et aller beaucoup
Exactement.
Plus loin.
Exactement, oui.
Intéressant. Du coup, moi, mes dernières questions, c'est si tu devais recommencer à partir de toi, Morgane, qui partage ton quotidien de patiente, au moment de cette hospitalisation, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais différemment?
Mais je me pose régulièrement la question. Régulièrement. C'est beaucoup dire, mais je me suis déjà posé la question. Je suis pas sûre que je ferais beaucoup de choses différentes parce que, alors déjà, j'ai un état d'esprit où je suis très peu tournée vers le passé. Je suis très peu tournée vers le passé et je considère toujours que les choses peuvent changer du tout au tout. C'est pas une question de volonté, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont contre notre volonté, mais je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes dans la vie, et il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, auxquelles on s'attend pas. Donc, je changerai rien au sens où j'ai pas le pouvoir de changer quoi que ce soit. Ça, c'est une évidence. Après, par contre,
purement business, il y a peut-être.
Si je devais le refaire aujourd'hui, je prendrais pas la même agence, effectivement, du lancement. Il y a beaucoup de connaissances que j'ai aujourd'hui que j'avais pas avant et qui du coup font qu'il y a plein de choses sur lesquelles je serais peut-être beaucoup plus agile. Il y a certains prestataires que je prendrais pas parce que j'ai perdu de l'argent en prenant des prestataires qui m'ont fait dépenser de l'argent et du temps et que j'aurais pas. Qui n'était pas forcément légitime, mais c'est le parcours d'entrepreneur. Je pense que ça fait partie de l'apprentissage.
Complètement. Et ma dernière question, pour terminer sur une touche un peu joyeuse et marquante, est-ce que tu as un moment où ta plus belle réussite, un moment marquant de ton aventure que tu voudrais nous partager?
Ouais, avec plaisir. C'est le jour du lancement de l'application, qui est le 14 janvier. Le 14 janvier 2019, qui marque le jour de la naissance de mon premier neveu, petit Gaspard, qui est né le jour même où j'ai lancé l'application. Et du coup, ça a été un plein d'émotions, vraiment. C'était une journée assez exceptionnelle, assez incroyable. Et du coup, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions, ça a été un accomplissement après un an de bataille de lancer cette application. Et c'est surtout la naissance de ce petit qui est une boule d'amour au quotidien. Et du coup, c'est une journée mémorable.
Super. Merci beaucoup, Morgane, pour ton témoignage. Et puis,
je te souhaite
beaucoup de succès avec Philippe.
C'est adorable. Et vraiment, merci de m'avoir donné la parole.
Avec plaisir. À bientôt.
À bientôt.
J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lui laisser une super note sur ton appli préférée de podcast et à en parler autour de toi. Tu peux également m'envoyer un message sur mon LinkedIn Jean-Baptiste Michel afin de me dire ce que tu en penses. Moi, je te dis à très vite pour un prochain épisode d'Entreprendre dans la santé.